Saint André Avelin, fêté le 10 novembre. Saint André Avelin, qui s'appelait à sa naissance Lancelot, est né près de Naples, à Castro Nuovo, en 1521. Ses parents étaient très vertueux et le confièrent pour son éducation à un oncle qui était archiprêtre. Depuis tout petit, André prit l'habitude de réciter pieusement le chapelet. Plus tard, il se rendit à Venise pour étudier la philosophie et très rapidement, il devint clerc, c'est-à-dire séminariste, et il reçut la tonsure de son oncle. Il gravit son nom sur une pierre de cette église en souvenir de ce grand jour, puisqu'il se consacrait à Dieu, et quand cette église tomba en ruine, le pan de la muraille où son nom était gravé resta intact. On le poussait beaucoup à devenir prêtre, mais lui, par humilité, refusait. Mais voyant qu'il y avait tant d'âmes à sauver et qu'il ferait beaucoup de bien par son catéchisme, par les confessions, il se décida enfin à accepter l'ordination sacerdotale. L'évêque le nomma d'abord dans un couvent de religieuses pour y remettre de l'ordre. Il y parvint avec beaucoup de patience et les religieuses devinrent des modèles d'humilité, de pureté, de régularité. Ceci déclenchait la colère du démon qui faisait venir dans ce couvent beaucoup de gens qui étaient un peu libéraux. Et alors ces gens qui ne pouvaient plus discuter avec ses sœurs cherchèrent à se venger et décidèrent de tuer Saint André. En sortant de l'église un jour, un de ces hommes pervers lui sauta dessus avec une épée et commença à lui labourer le visage avec son épée. La providence ne permit pas qu'il mourût. On put arrêter l'assassin, mais Saint André fit tout pour qu'il ne soit pas tué. Mais on apprit plus tard que le meurtrier avait été tué par un autre homme dans la prison. Vous connaissez le proverbe « Qui bouffe du curé en crève ». Il ne faut jamais faire de mal à un prêtre, ni dire de mal d'un prêtre. Il faut prier pour lui. Il avait beaucoup de compassion pour les malheureux, les pécheurs, car Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Alors il travailla beaucoup comme avocat, avocat ecclésiastique. Mais un jour, dans sa façon de défendre son client, comme on dit, il dit un petit mensonge. Ça lui échappa. Et le soir même, en lisant la Bible, il tomba sur cette parole qui le frappa comme la foudre. « La bouche qui profère un mensonge tue son âme. » Rempli de contrition, il demanda pardon à Dieu et quitta sa tâche d'avocat ecclésiastique. Il voulut faire pénitence de ce péché, qui pour lui était gros, car quand on aime Dieu, on fait attention de ne pas le blesser. Alors, pour réparer, il décida de se faire religieux. Et il prit le nom d'André, puisqu'André était mort sur une croix, et était mort en disant « Ô bonne croix, qui m'ouvre le paradis et me fait tant ressembler à mon sauveur. » Il entra chez les religieux qu'on appelait l'ordre des clercs théatins, qui avait été fondé par Saint Gaëtan. Il se sanctifia beaucoup en cherchant les travaux les plus humbles, les plus pénibles. Il aimait aussi qu'on l'humiliait, qu'on le grondait, même s'il s'était à tort. Il ne cherchait aucun honneur, aucune flatterie. Et il faisait beaucoup de pénitence. Plus il souffrait, plus il était heureux, car il savait que la souffrance, acceptée et offerte, sauve des âmes, complète la personne de Jésus, délivre les âmes du purgatoire, etc. Il y avait deux choses admirables dans ces résolutions. La première de ces résolutions était de ne jamais faire sa volonté propre et de toujours obéir aux autres. Sauf si c'est un péché, bien sûr. Et tout ce qu'on lui demanderait, il acceptait de le faire. Sa deuxième résolution, encore plus héroïque, était de progresser tous les jours dans la vertu. Chaque jour faire mieux que la veille. Vraiment admirable. Il faisait mourir en lui ce qu'on appelle le vieil homme, pour que l'âme domine le corps et non pas le corps l'âme. Il dormait peu, mangeait peu, travaillait beaucoup. C'est ainsi que son âme, pour finir, commandait toutes ses passions. À cette époque, il eut la joie de faire le pèlerinage de Rome. Et à son retour, il fut nommé supérieur des novices, maître des novices. Il était tellement maître de lui-même qu'on avait jugé qu'il pouvait être maître des autres, former des religieux. Et ceci dura 10 ans. Il faisait tellement de bien qu'on lui confia encore 2 autres maisons, celle de Milan et celle de Plaisance. Là, il s'attira beaucoup d'ennemis, car dans ses prédications, il reprochait beaucoup le luxe, les parures, les trop grandes richesses dans les habillements, et aussi il cherchait à chasser ceux qu'on appelait les pécheresses publiques, qui étaient des scandales pour les autres. On ne chercha pas à le tuer cette fois, mais on le calomnia. On dit toutes sortes de mal faux contre lui, si bien qu'il eut à se défendre contre les autorités civiles. Mais en le voyant vivre et en l'écoutant, les autorités se rendirent très vite compte qu'ils avaient affaire non pas à un pervers, mais à un saint. Il fut bientôt nommé supérieur général de tous les religieux théatins. Il fit connaissance de l'archevêque Saint-Charles Borromée. Et Saint-Charles était frappé de voir combien Saint-André était indifférent aux choses de la terre, à la nourriture, au repos, à la fatigue. Et un jour qu'il lui demandait comment il faisait pour être si détaché des choses de la terre, Saint-André lui avoua: un jour, notre Seigneur Jésus-Christ m'est apparu dans toute sa gloire. Il était si beau, si lumineux, si bon, qu'après cette vision, tout le reste m'est indifférent. Il était indifférent aussi aux honneurs. Et lui qui était le supérieur général, pour pratiquer la vertu d'obéissance, choisit un autre prêtre qu'il nommait son co-supérieur et à qui il obéissait en tout. Et il refusa, quand le pape Grégoire XIV voulut le faire évêque, il refusa cet honneur. Malgré le don des miracles, il restait toujours humble et reconnaissait que c'était Dieu qui se servait de lui comme d'un instrument. Mais lui se disait: je suis un serviteur inutile. Le bon Dieu fait ce qu'il veut avec moi. Moi, je fais que collaborer avec lui. À cette époque, le protestantisme se répandait partout en Europe, surtout dans le Nord, mais aussi en Italie. Et alors Dieu fit plusieurs miracles eucharistiques pour montrer qu'il était vraiment présent dans la Sainte Hostie. Un jour, un hérétique, un protestant, comme fit semblant de communier, et après mit l'hostie dans son mouchoir pour aller la profaner chez lui. Arrivé chez lui, il tire son mouchoir de la poche, et dans son mouchoir, il n'y avait qu'un morceau de chair et rempli de sang. Tout confus, contrit, il s'en va avouer son crime à Saint-André, qui pour cacher la honte de ce pécheur accepta de faire lui-même une grande partie de la pénitence. Une autre fois, Dieu fit un autre miracle encore pour montrer sa présence dans l'hostie. Saint André se rendait auprès d'un malade avec le Saint-Sacrement, portait la communion. Il était accompagné de deux servants de messe qui avaient un cierge allumé. Le démon furieux souffla les deux cierges, si bien qu'ils étaient dans l'obscurité la plus totale, et en plus il se mit à pleuvoir à verse. Mais une lumière céleste les enveloppa, si bien qu'ils voyaient leurs pieds et ils savaient où ils allaient, et la pluie ne tomba pas sur eux, même pas une goutte. Un autre miracle se fit une autre fois qu'il se rendait à cheval, un cheval qu'il avait emprunté, auprès d'un autre malade. Voilà que le démon le fit tomber de cheval, et le pied est coincé dans l'étrier, il se fit traîner par ce cheval le long de la route et des cailloux. Il était tout blessé. Il appela à son secours saint Thomas et saint Dominique, qui lui apparurent, détachèrent son pied, et le guérirent de toutes ses blessures. Il ne se vantait jamais de ses miracles. Il se croyait le plus grand des pécheurs. Il ne voyait que les défauts qu'il y avait en lui. Parfois même, saint Thomas et saint Augustin le visitèrent, lui apparurent, pour le rassurer en lui disant qu'il ne serait pas damné. Le démon le tentait de désespoir en lui montrant ses défauts. Plus on s'approche de Dieu, en effet, plus on voit que nos défauts sont graves, car ils offensent une majesté infinie. Alors le démon peut se servir de cela pour pousser au désespoir, au découragement, un peu comme il a essayé avec le saint curé d'Ars, qui quitta sa paroisse, un peu poussé par le désespoir. Mais il ne succomba pas, car chaque fois il revint. Malgré tout le travail qu'il avait, saint André passa beaucoup de temps à écrire des livres de prière, des livres de tous les sermons pour l'année, et aussi un livre de méditation sur les dons du Saint-Esprit. Il arriva ainsi à 88 ans, et c'est là qu'un matin, au début de la messe, en prononçant les mots « In troebo ad altare Dei », il fut frappé brusquement par une grave attaque d'apoplexie. Il tomba raide, paralysé par terre. Il ne put plus prononcer une seule parole. On l'amena d'urgence au couvent. On lui donna l'extrême onction. Il était tout à fait conscient, si bien qu'on put lui donner la communion. Il voulut sortir de son lit pour se mettre à genoux, par respect pour le Saint-Sacrement, mais il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait que faire des signes avec ses yeux. Après cette dernière communion, il resta dans la paix, malgré les douleurs de cette maladie. Le démon essaya une dernière fois de le vaincre par le désespoir. Il le tenta de toutes sortes de choses, dont on ne saura jamais le contenu, si bien qu'André se tortillait, se roulait les yeux dans son lit, on voyait qu'il était en butte à une lutte terrible contre l'ennemi invisible. Mais à certains moments, il peut regarder, avec ses yeux fixement, une image de la Sainte Vierge placée au pied de son lit. Et alors son corps devient calme, la tentation disparue. Quelques moments plus tard, nous sommes le 10 novembre 1608, Dieu venait chercher son âme, et il partait dans la vraie vie. Saint André Avelin, qui avait fait tous les jours des progrès dans la vertu, et qui vous êtes même engagé à cela par un vœu, aidez-nous, chaque soir, en demandant pardon à Dieu, à prendre une résolution ferme de mieux faire pour le lendemain, sur quelques points particuliers. Et même si nous pouvons, grâce à Dieu, par son aide, faire de grandes choses dans la vie, faites que nous conservions toujours l'humilité. Car c'est Dieu qui fait en nous de grandes choses, nous sommes que de serviteurs inutiles. Enfin, Faites-nous la grâce de persévérer jusqu'au dernier combat de l'agonie avec l'aide de la très sainte Vierge Marie. Ainsi soit-il. Le bienheureux François de Posadas, 1644-1713. François de Posadas est né en Espagne le 25 novembre à Cordoue. Sa maman le fit baptiser à la chapelle Notre-Dame du Rosaire et le consacra à la très sainte Vierge Marie. On vit dès le départ que ce jeune enfant serait un jour un grand saint, car trois fois par jour, il ne mangeait que le soir, déjà tout petit. Le premier mot qu'il prononça fut le nom de Marie, et ses premières paroles, le « Je vous salue Marie ». À l'âge de 5 ans, il commença à se confesser, avec attention et un jugement qui étonnait beaucoup les prêtres. À 7 ans, il fit sa première communion. Chaque jour, il servait plusieurs messes chez les dominicains. Il jeûnait durant le carême et les vendredis au pain et à l'eau. Il était plein de compassion pour les pauvres. Il leur donnait tout ce qu'il pouvait mettre de côté pour eux dans sa pauvre maison. Il avait obtenu de sa maman 2 images, une de Jésus, l'autre de la Sainte Vierge. Il les plaça sur une sorte d'autel et tous les jours il y récitait le rosaire. Il n'avait que 7 ans. Il réunissait aussi quelques enfants de son âge. Il faisait des processions dans les rues de la ville. Il chantait avec le rosaire. Et après la récitation, François leur faisait un petit sermon et leur donnait de bons conseils. Par exemple, il disait à un « Pourquoi offensez-vous le bon Dieu qui nous donne la vie et qui nous la conserve? Faites attention à vos paroles, parce que vous serez tous les deux la proie du démon, vous pour avoir parlé ces vilaines choses et l'autre pour les avoir écoutées. » Quand il rencontrait une croix sur son chemin, il se mettait à genoux et faisait mettre à genoux ses petits compagnons en disant « Ô croix sur laquelle Dieu est mort pour moi, c'est toi qui me sépare de la maudite compagnie du démon. » Quand il allait jouer avec ses camarades, pendant qu'il s'amusait, lui se retirait dans une grotte de la montagne pour prier et faire des pénitences. Sa dévotion qu'il avait pour la messe, vous rappelez qu'il servait 3 messes par jour, fut récompensée par notre Seigneur. Il fut atteint de la peste, et contre toute attente, il guérit d'un seul coup. Une autre fois, il tomba dans un puits très profond. Il voulait cueillir une fleur, et il tomba dedans. Il y resta miraculeusement suspendu en l'air. Il fut retiré de là sans savoir comment ce secours lui était venu. Son ange gardien. Une autre fois, il nageait dans le fleuve, et il était entraîné par l'eau, il allait se noyer, quand il pensa à invoquer la Sainte Vierge, la Mère de Miséricorde, il se trouva tout à coup, sans savoir comment, assis sur la rive. La très Sainte Vierge Marie, qui le protégeait, vous savez qu'il avait été consacré par sa maman tout petit au baptême, lui apparut en songe, tenant plusieurs rosaires à la main, et l'invita à en prendre un pour le récompenser de sa ferveur et de sa persévérance à réciter cette forte prière. Son ange gardien aussi lui apparut, sous la forme d'un très bel enfant, vêtu d'un habit religieux. François connaissait le vœu de sa maman, et son plus vif désir était d'entrer en religion, comme sa maman l'avait promis à Dieu. Mais son père étant mort depuis longtemps, sa maman se remaria à un homme d'un caractère difficile. Il ne voulut pas permettre à François d'apprendre le latin, encore moins de devenir religieux. « Tu feras un apprentissage. » Celui-ci, poussé par le démon, le maltraitait souvent. François, frappé par son père ou son patron, mettait sa confiance et son affection en Dieu. Ce qu'il redoutait le plus, c'était l'enfer. Voyant que l'habitude de réciter le rosaire lui avait gagné le cœur de la très sainte Vierge Marie et lui attirait beaucoup de grâce, le démon lui apparut sous la forme d'un animal tout noir et lui chercha à lui voler le rosaire de la main. François le retint, tandis que le démon faisait le singe, lui fit le signe de la croix en disant « Regarde la croix !» Et aussitôt le démon prit la fuite. Depuis ce jour, voyant combien le rosaire était si redoutable au démon, il en eut toujours deux sur lui, un autour du cou et l'autre à la main ou dans sa poche. Ne nous séparons jamais de notre chapelet. C'est une protection. Encore mieux, récitons-le tous les jours. Le démon chercha à se venger. Il le frappa plusieurs fois. Il tentait de le décourager. Dieu le permettait afin d'exercer la patience et l'humilité de François et de lui donner ainsi des moyens de suivre sa vocation et de sauver des âmes. En effet, quelque temps plus tard, quelques personnes s'étant aperçues des poursuites du démon, des méchancetés, craignaient que François ne fût possédé du démon. On le fit interroger par un prêtre instruit, qui après un sérieux examen répondit « Faites savoir à ses parents qu'il faut le mettre à l'étude. Il doit devenir religieux, et alors le démon cessera. » Sa maman accepta, mais son beau-père refusa et essaya de le détourner de cette vocation. François avait alors 17 ans. Un bon religieux du couvent de Saint-Paul, touché de compassion, lui offrit une chambre dans sa maison. Le bienheureux avait 17 ans et il a commencé à apprendre la grammaire avec les enfants de 7 ans. Il se moquait de lui et le couvrait de méchanceté. Mais lui tenait bon. Il fuyait les conversations inutiles, travaillait, priait. On reconnut bientôt qu'il y avait une grande facilité pour étudier. Dépassant rapidement tous ses camarades, il apprit parfaitement à parler latin, fut le premier de l'école et les moqueries cessèrent. Sa maman devint veuve une deuxième fois. Son fils put demeurer avec elle. Il la soignait, il la servait avec attention et tendresse. Sa mère disait à tous ceux qu'elle connaissait, « Mon fils est un saint. Il me lave, me baise les pieds, il me fait mon lit, il m'obéit en tout et il me donne toutes sortes de marques d'affection. » Il avait 18 ans. Dans sa vieillesse, le bienheureux François disait lui-même, « Si Dieu use de miséricorde envers moi, c'est à cause de la bonne volonté avec laquelle j'ai toujours obéi à ma mère. » En effet, Dieu récompense sur terre ceux qui honorent leur père et leur mère. Après plusieurs fois qu'il fut appelé par l'évêque, il disait encore, « Je n'attribue ces honneurs qu'à Dieu. Peut-être qu'il aura voulu récompenser ainsi l'ardent désir que j'ai eu de toujours faire du bien à ma mère. » Cependant, il avait toujours dans l'esprit son vœu d'être consacré à Dieu. Sa maman lui proposa de faire les démarches pour entrer au couvent royal de Saint-Paul. Mais les religieux de cette grande maison le refusèrent, non pas à cause de sa famille qui était ancienne, mais parce que sa maman était pauvre. Ce fut un grand chagrin pour cette pauvre femme. Elle engagea son fils à se présenter dans un autre couvent, et là on l'accueillit avec joie. Le jour fixé pour la prise d'habit, François alla faire ses adieux à Notre-Dame du Rosaire, là où il avait été baptisé. Il resta longtemps. À son retour, sa mère, le voyant si triste, lui demanda le sujet de ses larmes. « Je pleure, dit-il, et je pleurerai toute ma vie, parce que je veux être dominicain. Il va m'obliger à entrer dans un autre couvent. » Sa mère courut alors consulter le dominicain qu'il avait reçu une fois dans sa maison. Ce bon religieux, trouvant que le jeune homme, si ferme dans sa vocation, lui donnait une excuse pour s'absenter de Cordoue ce jour-là, afin d'éviter la cérémonie dans cet autre couvent, il le prit chez lui. Il le recommanda ensuite au prieur du couvent de Scalacelli, qui veut dire en français « l'échelle du ciel ». Le prieur l'accepta et plus tard l'envoya au noviciat au couvent de Sainte-Catherine. François fit une année de noviciat et en 1663, il fit ses premiers vœux. Un des grands sacrifices qu'on lui imposa, c'était de ne plus jamais retourner à Cordoue, même pour voir sa mère. C'est que Dieu allait lui donner de si grandes grâces qu'il faillait en quelque sorte les payer par ce sacrifice. François redoublait ses jeûnes, ses pénitences. Il s'adonna à servir les pauvres. Il voulait devenir en tout un parfait religieux. Il fut enfin ordonné prêtre. Il put se rendre alors à Cordoue pour dire sa première messe à l'autel de Notre-Dame de la Fontaine Sainte, et il accomplit ainsi le vœu de sa maman, qui avait promis à Dieu, si elle avait un enfant, qu'il serait prêtre. Il convertit beaucoup de personnes. Par exemple, une femme, renonçant à toutes les vanités du monde, disait « On ne peut plus faire autrement, après avoir entendu un serment d'un tel saint. » Il fut rappelé au couvent de Scalacelli. Le prieur lui demanda de prêcher, mais les religieux refusèrent de venir l'entendre. Il souffrit avec patience cet affront, qui fut le dernier, car ayant eu l'occasion de prêcher dans les autres églises de la ville, ces religieux, voyant tout le bien qu'il faisait, tous les pécheurs qui se convertissaient, vinrent lui demander pardon humblement. François fut alors envoyé près du couvent dans un hospice où il venait quelques religieux pour prêcher, confesser, recevoir les aumônes et faire du bien autour d'eux. Il y restera jusqu'à sa mort. Quand il arriva, il vit un ange qui lui fit entendre que c'était ici qu'il porterait sa croix. Le soir, il sonna la cloche pour appeler les fidèles à la récitation du rosaire. Le lendemain, il se mit au confessionnal, où les pécheurs accoururent en telle foule qu'il y passa toute la journée et une partie de la nuit. Ce sera ainsi presque jusqu'à sa mort. Il éprouva quelquefois de grandes tentations, car tous ces péchés qu'il entendait, le démon s'en servait parfois pour le tenter, lui donner une mauvaise pensée. Mais Dieu le soutenait et l'aidait à accepter cette épreuve. J'ai prouvé, dit-il, combien Dieu est généreux envers ceux que sa bonté expose au danger. En effet, Dieu proportionne sa grâce à la grandeur de la difficulté. Ce fut une des grandes pénitences aussi du saint curé d'Ars, d'entendre toute la journée des péchés. Mais par amour pour Dieu, et donc du pécheur qu'il réconciliait avec Dieu, il supportait cette audition pour pouvoir les guérir. À ce don de confesseur, Dieu ajouta le don de prophétie, et même le don de lire dans les cœurs, comme le Saint-Curé d'Ars, comme le Padre Pio. Par exemple, il disait à l'un, « Ah, traître, pourquoi me caches-tu tel et tel péché ?» Il lui disait lesquels, le nombre et où il les avait faits. Une autre fois, « Il faut encore vous confesser ce péché-là, puisque vous l'avez commis et que vous l'avez caché exprès. » Il y a une autre personne qui se taisait, « Voilà le péché que vous avez tant de honte d'avouer. J'aurais mieux fait de le dire au début. » Il rappela à un homme deux péchés qu'il avait commis 12 ans auparavant et qu'il croyait bien cachés. Pendant 12 ans, il n'avait fait que de confession et de communion sacrilège. Prêchant une mission, il dit à une personne qui se confessait, « Comment venez-vous vous confesser ? Vous avez dans votre cœur plein de haine pour votre fille à cause de ceci. » Quelquefois la Sainte Vierge lui envoyait des pécheurs à convertir. Cette bonne mère lui apparaissait, ou bien apparaissait aux personnes qu'elle envoyait se confesser. « Va te confesser !» lui dit-elle un jour. Elle dit aussi un jour à un prêtre, le père Posadas, « Allez vous confesser chez le père François. » Ils obéirent et devinrent de grands modèles. Les saints anges aussi aidaient le bienheureux François dans l'exercice de son ministère. Un soir qu'il allait confesser, il pleuvait beaucoup, une femme qui était en danger de mort, sa lanterne s'éteignit quand il alla chez elle. Il faisait tout nuit. Mais aussitôt, une torche s'alluma sans que personne la portât, et cette torche l'accompagna jusqu'à la maison de la malade. Son ange gardien, sûrement. Une autre fois, il était assis à côté du confessionnal. Il vit entrer dans l'église deux femmes à laquelle l'une dit. Il dit à l'une, « Venez ici, ma fille. Le Seigneur vous appelle, venez vous confesser, vous en avez besoin. » Cette femme leva les yeux sur lui, s'aperçut qu'il était environné d'une lumière toute céleste. Alors, quoiqu'elle n'eût, en venant à l'église, aucune intention de se convertir et de se réconcilier avec Dieu, voyant cette lumière, elle se mit à genoux et se convertit. Elle partit sincèrement repentante et contente et répara tous les scandales qu'elle avait donnés. François avait le don de toucher les cœurs les plus endurcis. Pourquoi ? Parce que lui-même haïssait le péché et le combattait pour lui-même. Il dit un jour à une personne qui le trouva tout en pleurs, lui demandait pourquoi il pleurait. « Que voulez-vous que je pleure ? C'est parce que je suis l'homme le plus misérable, le plus vil. J'ai osé offenser parfois le bon Dieu dans ma vie. » Il pleurait presque continuellement pendant la messe pour ses propres péchés et pour les péchés des pécheurs. Il se croyait si indigne de tenir Jésus dans ses mains qu'on l'entendait parfois répéter « Oh, quelle misère ! Un Dieu descend dans mes pauvres mains !» À l'élévation, la consécration, il commençait à trembler. Il ne pouvait parvenir à étouffer ses sanglots. Un jour que Jésus avait daigné lui apparaître dans la Sainte Hostie, son agitation redoublait, son émotion, ses larmes aussi. Ceux qui étaient à la messe craignirent que la Sainte Hostie ne se brisât dans ses mains qui tremblaient de tous les côtés. D'autres fois, il était ravi en extase. Il s'élevait de terre, au-dessus de l'autel. Et quand on lui demandait ce qui s'était passé à la messe, il répondait plein d'humilité, « Je ne sais pas si c'est le sol qui disparaît, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Plaise à Dieu que je lui sois reconnaissant toutes ses grâces. » Pendant qu'il prononçait les paroles à consécration, Jésus lui dit avec tendresse, « Mon fils, c'est moi qui suis celui qui suis. » Il resta hors de lui. Puis en élevant la sainte hostie, son corps suivit son âme et s'éleva en l'air de quelques degrés. En redescendant, un grand nombre de personnes le virent tout environné de lumière. Cet éclat lumineux paraissait au reste fréquemment, surtout pendant qu'il lisait la messe. Alors son visage se transformait, son front devenait transparent comme le cristal et étincelant. À l'évangile, on vit parfois sortir de sa bouche un rayon lumineux qui éclairait tout le missel. Et deux fois, il sortit de son corps une lumière si éclatante qu'elle éclairait toute l'église. La très sainte Vierge Marie lui apparaissait aussi pendant la messe, surtout à ses jours de fête. Par exemple, le 8 septembre, le jour de sa naissance, elle se fit voir à lui comme elle était dans son berceau, et à Notre-Dame de Compassion comme elle était au pied de la croix. Les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, la grande martyre Sainte-Catherine, à laquelle il était très dévot, et beaucoup d'autres saints lui apparaissaient durant le Saint-Sacrifice de la Messe, puisque pendant la Messe ils intercèdent pour nous et ils s'offrent avec nous. Bien sûr, les anges l'assistaient, soutenaient ses bras à l'élévation, allumaient les cierges qui s'éteignaient, ou les tenaient. On ne saurait s'en étonner car les anges et les archanges, qui sont nos gardiens sur la terre, assistent avec un grand respect au saint sacrifice de la messe, adorant Jésus avec humilité dans le sacrement de sa charité. Nos yeux ne sont pas dignes de les voir, et la plupart du temps à la messe, nous ne songeons pas même à eux, quoiqu'ils prient constamment à côté de nous, car ils n'ont rien besoin pour eux-mêmes, c'est pour nous qu'ils prient. Mais trouvant dans le bienheureux François une âme pure et un dévoué serviteur de Jésus, ils aimaient à le rendre témoin de ce grand respect. Beaucoup de personnes retrouvaient la santé de l'âme et d'autres celle du corps pendant la messe. Quand il descendait de l'autel, les malades le priaient de réciter l'évangile sur eux, de leur imposer les mains, de faire le signe de la croix. Tous étaient guéris, même les aveugles. Une femme que les médecins avaient avertie de sa prochaine mort lui demanda, après s'être confessée, de laver ses doigts et de lui donner boire cette eau. François refusa par humilité. Mais la femme lui dit, « Vos doigts ont touché Jésus à la messe. C'est pour ça que je veux boire cette eau qui aura touché vos doigts. » Cette foi obtint la guérison de cette femme. Mais rappelez-vous, après s'être confessée, il faut guérir l'âme pour que Dieu accepte parfois de guérir notre corps s'il le juge utile à notre salut. Il fut averti de l'heure où il allait mourir. Et comment ? Je mourrai subitement, dit-il, et bientôt. Le 20 septembre 1713, après avoir dit la messe avec beaucoup de dévotion, il se mit au confessionnal. Il y avait beaucoup de monde. On remarqua qu'il avait l'air tout joyeux. Il donna à chacun des pénitents de salutaires avis, en faisant entendre que c'était la dernière fois qu'il leur parlait. « Il est nécessaire, dit-il à l'un d'eux, que je vous donne une règle de vie, car ma maladie grandit, et bientôt je pourrai plus vous aider. » En rentrant dans l'hospice, un religieux le pria de le tirer d'une inquiétude qui l'obsédait. Ils s'assirent sur un banc, et François l'écouta avec attention et lui rendit la paix. À midi, un religieux l'appela pour manger. En s'asseyant pour se mettre à table, il eut une attaque d'apoplexie, perdu connaissance. On le porta sur son lit, où il suait abondamment. Les médecins ayant perdu tout espoir, on lui donna l'extrême-onction, l'absolution, les indulgences. Les religieux croyant qu'il allait passer dans l'autre vie, chantèrent le credo, par trois fois. Et doucement, à 7 heures, il fermit les yeux et rendit le dernier soupir. Il avait 69 ans. Bienheureux François de Posada, donnez-nous votre amour pour la messe, pour le rosaire, pour les pauvres, votre patience dans les difficultés et les tentations, et votre persévérance, votre fidélité dans le devoir d'État, qui sont le signe d'un grand amour pour Dieu et le gage d'une vie éternelle. Ainsi soit-il. Vie de Saint Georges, martyr, en 303. Saint Georges est né en Palestine, en 280. Ses parents étaient chrétiens depuis bien longtemps. Ils étaient aisés, avaient beaucoup de serviteurs, et ils éduquèrent surtout leur enfant dans la plus grande des richesses, l'amour de la vertu et du bien. À 17 ans, Georges n'avait qu'un désir, faire du bien autour de lui. Et comme il avait beaucoup de militaires dans sa région, il y avait plusieurs légions romaines, il décida de devenir militaire. Il était d'une très grande politesse, si bien qu'il montra très vite en grade, car il faisait du bien avec beaucoup de bonté et savait imposer la discipline à ses autres soldats. Et voilà qu'un jour, il part en mission dans l'Afrique du Nord, en Libye. Cette région est encore bien païenne. Il y avait dans un village un dragon, un terrible dragon. C'était un démon qui, parce que les gens invoquaient les idoles, les faux dieux, car vous savez que toutes les idoles, toutes les fausses religions sont des démons, eh bien le démon vivait dans ce dragon et l'exigeait, sous peine de détruire la ville, à l'enfant à dévorer tous les jours. Ce jour-là, l'enfant qui fut tiré au sort pour être mangé par le dragon était la fille unique du chef du village. Georges entendit cet enfant qui pleurait, se dirigeant vers une grotte obscure, là où vivait ce démon. Son sang ne fit qu'un tour, il prit son crucifix et partit vers la grotte. N'y allez pas, n'y allez pas! Tous ceux qui ont voulu combattre le dragon sont morts. Est-ce qu'ils sont partis là-bas au nom de Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Je vais vous montrer qui est Jésus-Christ. Il rentra dans la grotte. Un silence de mort pesait sur toute la région. On n'entendait rien, on ne voyait rien. Et tout à coup, on voit la petite fille qui sort, suivie de Georges, avec une corde, suivie du dragon, attaché avec cette corde autour du cou. Imaginez l'impression que fit ce miracle dans la tête de ces païens, de ces Libyens. Aussitôt le chef voulut savoir qui était ce Jésus-Christ qui avait permis d'enchaîner le démon. Alors Georges leur montra le crucifix, leur raconta la passion et la vie de Jésus, et les païens, époustouflés qu'il y avait un Dieu qui les aimait, qui n'était pas un tyran toujours prêt à punir et à châtier, comme sont les démons dans les fausses religions, ils demandèrent aussitôt d'être baptisés. Georges leur enverra des missionnaires qui convertiront cette région et une grande partie du pays. Quant à lui, il dut repartir à Rome pour rendre compte de sa mission. L'empereur Dioclétien était très content de lui. Il le nomma tribun, c'est-à-dire qu'il était à la tête de 1000 hommes. Dans ces 1000 hommes, il fallait avoir de la discipline. Georges ne permettait ni blasphème, ni cruauté, ni massacre, ni vol, ni aucun désordre dans toutes les campagnes et les batailles qu'il devait mener. Il en convertit un grand nombre au catholicisme jusqu'au jour où le démon se déchaîna. Dioclétien était un fada d'Apollon. C'était son idole préférée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette statue d'Apollon dans son temple lui parlait. Comme le démon dans le serpent au paradis terrestre, dans les statues des faux dieux, les démons parlaient aux païens. Et voilà qu'un jour, Dioclétien demandait à ce démon, à cet Apollon, pourquoi ses armées ne remportaient plus les victoires qu'elles avaient remportées auparavant. Et voici la réponse d'Apollon, du démon. C'est qu'il y a trop de chrétiens qui sont trop bons. Ils m'empêchent de faire tout le mal que je voudrais. Intéressante réponse qui montre que le démon ne peut pas faire tout le mal qu'il voudrait faire grâce aux chrétiens. Si nous sommes bons, nous mettrons des barrières aux actions du démon. Alors Dioclétien rassembla tous ses chefs et il décréta une persécution générale de tous les chrétiens. Tous les habitants de Rome, et dans les autres villes ce fut pareil, devaient se présenter quartier par quartier et chacun devait jurer qu'il n'était pas chrétien ou qu'il renonçait au christianisme et il devait offrir un sacrifice à l'idole d'Apollon, sous peine de mort et de confiscation de tous les biens de la famille. Qu'aurions-nous fait dans cet état? La plupart des églises de l'Empire romain furent détruites. Des millions de chrétiens furent massacrés par le martyr. Certains pourtant faillirent, ils apostasièrent par peur des souffrances et de la prison. Ils renièrent la foi et devinrent apostats. Alors Georges, quand il apprit tout cela, ne voulut pas laisser ses confrères chrétiens perdent la foi. Il se rendit chez l'empereur, lui demanda une audience et lui tint ce discours. Ô empereur, je suis content de vous parler. Vous connaissez mes qualités, tout le bien que j'ai fait dans l'armée, et combien je vous suis dévoué, obéissant, et combien je défends les droits de l'Empire partout autour de la mer Méditerranée. Mais il y a une chose que je vous reproche. C'est que vous massacrez mes frères chrétiens qui nous ont fait aucun mal. Ce sont les plus obéissants de l'Empire, les plus purs, les plus charitables, les plus respectueux envers les autorités, les plus travailleurs car ils sont soucieux de leur devoir d'État. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas. Alors pourquoi les persécutez-vous Pourquoi les tuez-vous? Ne voyez-vous pas que c'est le démon qui vous a poussé à cela? Il fallait du courage pour parler ainsi à Dioclétien. Et Georges avait bien raison, car la femme de Dioclétien, l'impératrice, se convertit à ce discours, ainsi que beaucoup de serviteurs qui étaient présents et d'autres à qui on raconta l'affaire. Dioclétien, pourtant, aveuglé par son orgueil, fit mettre Georges en prison avec des fers aux pieds et aux mains. Le lendemain, il dut se présenter de nouveau dans la salle des tortures.
« Allô, Georges, je te donne encore une chance. Renie ta foi, re Jésus-Christ, et tu auras la vie sauve. Tu seras riche. Sinon, tu vas souffrir. Et tu vas pas mourir tout d'un coup. Tu vas souffrir à petit feu. Alors choisis. Ô empereur, jusqu'à présent, je t'ai toujours obéi. Mais je ne peux pas, pour t'obéir, désobéir à celui qui est supérieur à toi, Jésus-Christ, le seul Dieu. Comment pourrais-je le renier, lui, qui ne m'a fait aucun mal de toute ma vie et qui a donné sa vie pour moi?
Attachez-le à la roue! Commencez la persécution! Allez-y!
Alors le martyre de Saint-Georges commença. Il fut terrible. On l'attacha entre deux colonnes, les bras écartés, et derrière lui, on fit tourner à grande vitesse une roue garnie d'une quantité de couteaux dirigés vers lui. Son corps, son dos, ses jambes furent toutes déchiquetées. On approchait, on reculait la roue, en même temps qu'on lui disait « Renie et tu auras la vie sauve !»« Jésus, Jésus !» furent ses seules paroles. À un moment donné, les souffrances étaient trop grandes. Saint-Georges s'écria « Seigneur Jésus, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» À ce moment-là, Jésus-Christ lui apparut. Il lui tendit la main et lui dit « Georges, je ne t'ai pas abandonné. Je te regarde du haut du ciel. Je te prépare la couronne. Ton sang sera une semence de chrétien. Donne-moi la main. Je vais te tenir, t'aider. Tu n'es pas seul à souffrir en ce moment, car je souffre avec toi. » Jésus ne détacha pas Georges, mais l'aida à souffrir, avec patience, en offrant son sacrifice, en union avec la passion de Jésus, comme font tous les chrétiens au moment de la messe. Avec bien moins de douleur, c'est vrai, mais la dévotion compense tout.
« Détachez-moi, je veux aller dans le temple !» dit Georges, inspiré par le Saint-Esprit.
« Ah, victoire! Victoire! Enfin, il rejette sa religion !» dit Dioclétien, ne sachant pas ce qu'il attendait.
Alors on conduit Georges avec des trompettes qui annonçaient sa traversée dans la ville et son entrée dans le temple d'Apollon.
Car on voulait qu'il y ait le plus de monde possible qui voit Georges apostasié devant Apollon.
Arrivé dans le temple, Georges se mit devant la statue d'Apollon et lui dit
« Alors, dis-moi qui tu es !»
La statue parla, ou plutôt le démon dans la statue.
« Je ne dirai rien, je ne dirai rien !» « Parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié et qui est mort pour nous. »« Non, non !»« Parle au nom de Jésus-Christ trois fois saint. »«
Je ne suis pas Dieu, » dit la statue. « Je ne suis pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des démons, nous trompons le peuple. Et pourquoi me fais-tu dire ça ?» Ah, c'est ton maître qui m'oblige. »
À ce moment-là, Georges fit un grand signe de croix et toutes les statues du temple tombèrent de leur socle et partirent en poussière. Tous les gens qui étaient là étaient émerveillés de voir la puissance de Jésus-Christ.
et se convertissait en masse. Dioclétien, ne pouvant supporter cela, tira son glaive et coupa la tête de Georges.
Saint Georges, grand martyr, grand soldat de Jésus-Christ, comme vous, nous voulons ne pas garder le silence. Nous ne pouvons pas laisser Jésus-Christ maltraité en ce monde, calomnié et sali comme il est aujourd'hui, en restant en silence. Nous voulons parler, être apôtres. Donnez-nous votre courage, s'il le faut, devant même les autorités civiles ou religieuses, pour la gloire de Jésus-Christ. Donnez-nous le courage de parler. Donnez-nous le courage de rester fidèles à travers les persécutions, qu'elles soient physiques ou morales. Saint Georges, vous avez guerroyé pour l'empereur des cieux. Et grâce à vous, des milliers de gens sont devenus chrétiens en Afrique du Nord, à Rome et partout où vous êtes passé avec votre légion. Saint Georges, donne-nous le courage de vivre et de mourir pour Jésus-Christ.
Saint Grégoire le Thaumaturge, IIIe siècle, fêté le 17 novembre. Saint Grégoire, qui s'appelait au départ Théodore, avait des parents païens, qui étaient très riches, nobles, mais très pratiquants dans leurs superstitions de païens. Mais plus il grandissait, plus il se rendait compte que les prières de ses parents aux idoles étaient sans effet. Et il se mettait à douter de la vérité du paganisme. À 14 ans, son père meurt, et il est mort d'une façon si bouleversante, troublé, se demandant ce qu'il y avait après la mort, qu'il n'eut plus de doute, il fallait chercher dans une autre religion la vérité. Sa maman le consacra d'abord aux études d'avocat, mais là aussi, Grégoire, réfléchissant, se rendit compte qu'il était difficile de pratiquer ce métier sans flatter le vice de ses clients. Alors il se destina à chercher une autre voie. Et son ange gardien, qu'il remercia plus tard, lui fit en sorte d'accepter un voyage avec sa sœur jusqu'à Beyrouth. En effet, à Beyrouth, son ange gardien lui fit rencontrer un grand père de l'Église, Origène. Et grâce à lui, il va découvrir toutes les richesses et les profondeurs de la religion chrétienne et se préparer ainsi à une vraie conversion. Il s'apprenait donc la religion, il était catéchumène, et à ce moment-là, avant qu'il puisse être baptisé, une grave persécution contre les chrétiens se déclencha dans la région, à cause de l'empereur Maximin. Nous sommes en 235. Beaucoup de chrétiens, dont Grégoire, durent fuir au nord de l'Afrique, dans une grande ville très célèbre, Alexandrie. Là, il put continuer ses études de droit et de théologie. Mais les démons n'abandonnaient pas la partie. Il ne voulait pas que Grégoire soit baptisé, car il sentait que Grégoire ferait beaucoup de bien. Alors il poussa une femme à faire croire que Grégoire était un pécheur et qu'il venait trouver cette femme en cachette. Grégoire ne faisait aucun cas de cette femme. Cette femme criait même « Qu'il me donne l'argent qu'il me doit, car il doit payer tout ce qu'il fait chez moi. » Grégoire, pour avoir la paix, lui donna l'argent qu'elle réclamait. À ce moment-là, les amis de Grégoire se demandèrent s'il n'avait pas péché. Mais cette femme, aussitôt qu'elle reçut cet argent dans la main, commença à se contorsionner, ses yeux sortaient des orbites, elle bavait, elle poussait des cris d'animaux de toutes sortes, elle était possédée du démon. Dieu avait permis que le démon s'empara d'elle pour punir son mensonge grave et ses calomnies. Grégoire en eut pitié, elle pria sur elle, et il n'était que catéchumène. Pourtant, ses prières chassèrent le démon. La persécution ayant cessé, nous sommes en 238, Grégoire peut enfin retourner chez son maître Origène, être baptisé, et il fit un discours où il remerciait surtout son ange gardien de l'avoir amené, comme par hasard, mais sachant bien ce qu'il faisait, auprès d'Origène. Il se rendit ensuite à Césarée, et enfin à Néo-Césarée. Nous sommes en 243, Grégoire a donc 33 ans. Le peuple chrétien voulait nommer Grégoire évêque de Néo-Césarée, mais le démon ne voulait pas. Il poussa les gens à réclamer Grégoire comme chef politique de la région, comme président si vous voulez. Mais Grégoire ne discuta même pas sur le problème. Il vendit tous ses biens aux pauvres, il avait une richesse immense, ses parents étaient morts, ayant laissé un grand héritage. Il ne garda rien pour lui, et forcé d'être évêque, il accepta pour ne pas vouloir aller contre la Providence qui semblait l'appeler à faire de grandes choses. Mais quelle fut la surprise de Grégoire quand il entra à Néo-Césarée, une ville immense, avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants, avec seulement 17 chrétiens. Cette ville était dans une débauche indescriptible et dans toutes sortes d'abominations envers toutes sortes d'idoles. Le travail semblait vraiment surhumain et le diable semblait régner dans cette ville. Pourtant, à la mort de Grégoire, il ne restera que 17 idolâtres dans cette ville. Devant ce travail immense et les difficultés, Grégoire fit ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Il pria. Et il prit même le temps de faire une retraite dans une solitude, dans le désert. Et là, la très sainte Vierge Marie, avec saint Jean, le patron des prêtres de l'époque, la Sainte Vierge avec saint Jean l'encouragèrent en lui disant qu'il le soutiendrait dans son apostolat. Saint Jean lui dicta même une règle de conduite, un petit catéchisme, si vous voulez, pour faire plus tard ses prédications. Ces paroles de saint Jean, Grégoire les mit par écrit, et on les appela le symbole de saint Grégoire. Et beaucoup de grands saints, dont saint Basile, saint Grégoire Nazianze, saint Ruffin, utilisèrent ce petit catéchisme, ce symbole, comme base de leur serment. À la sortie de sa retraite, Grégoire fut surpris par un violent orage, et il n'y avait pas d'autre abri qu'un vieux temple d'idole qui se trouvait sur son chemin. Il y rentre en faisant le signe de la croix, et aussitôt il entend des cris épouvantables de bêtes féroces. C'étaient tous les démons qui, épouvantés de voir entrer un chrétien dans leur temple, hurlaient et prenaient la fuite. Le temple resta vide et silencieux.
Le lendemain, Grégoire put partir. Il rentra à Néo-Césarée. Et le prêtre des idoles, le druide, le sorcier, si vous voulez, entra dans son temple pour invoquer les démons et y avoir des réponses. Mais pas de réponse. Pas de réponse, ils n'étaient plus là. Il partit tout dépité quand il entendit une voix de démon qui lui disait « C'est la faute de Grégoire. Il nous a chassés de ce temple. » Connaissant Grégoire, le sorcier se rendit tout de suite à Néo-Césarée se plaindre en disant « Qu'est-ce que vous avez fait à mon temple? Je gardais l'argent en disant toutes sortes de choses aux gens, leur disant l'avenir, en interrogeant les démons, vous les avez chassés, qu'est-ce que c'est pour des manières? Est-ce que vous êtes plus fort que les démons ?»« Moi, je ne suis pas plus fort, » dit Grégoire. « Mais le Dieu que je sers, lui, est plus fort. »« Si c'est vrai, eh bien, commandez voir aux démons qui retournent dans le temple. On verra bien s'ils vous obéissent. »« Très bien. » Grégoire prit un bout de papier. Il écrivit trois mots. « Satan rentre de nouveau. » Le païen, le sorcier, prit le billet, alla dans le temple, posa le papier sur le temple, et aussitôt tous les démons rentrèrent à nouveau. Émerveillé, le sorcier comprit que Grégoire était plus fort que les démons. Il retourna le voir et lui demanda de l'instruire sur la religion catholique. Grégoire lui expliqua la Sainte Trinité, l'incarnation, la mort de Jésus sur la croix. Le sorcier était un peu stupéfait quand Dieu vient habiter dans un homme. C'est pas possible! Si c'est possible, Dieu ne demande pas de comprendre, mais de croire. C'est vraiment un grand miracle. Est-ce que Dieu peut faire des miracles pareils? Dieu peut tout faire, mon enfant. Eh bien, Monsieur Grégoire, ou Monseigneur Grégoire, si c'est possible que Dieu descende dans un homme, faites un miracle aussi éclatant que cela. Transportez cette montagne l'autre côté de la vallée. Grégoire, confiant en la parole de Jésus qui avait dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de se déplacer, de se mettre dans la mer, elle vous obéirait. »« Retire-toi de là !» dit Grégoire à cette montagne. Et aussitôt la montagne se déplaça, avec c'est vrai un grand tremblement de terre, mais se déplaça et changea de côté de la vallée. Le sorcier ne résista plus. Il se prépara avec ferveur, reçut le baptême et devient même plus tard associé à Grégoire dans son apostolat. Ce miracle fut un peu comme le grand miracle de Fatima, un détonateur qui enclencha beaucoup de conversions. Le lendemain, une foule de malades se présentait chez Grégoire pour demander leur guérison et Grégoire, au nom de Jésus-Christ, les guérit tous. Un homme riche lui offrit même sa maison pour y faire la première église de Néo-Césarée. Quelque temps plus tard, il y eut un grand tremblement de terre, beaucoup de maisons de cette ville furent abîmées, mais cette maison resta complètement intacte. Beaucoup de gens se convertissaient, mais Grégoire resta humble et modeste, sachant qu'il n'était qu'un instrument dans la main de Dieu et que ce n'était pas par ses mérites qu'il obtenait ses miracles. C'est Dieu qui faisait tout. Vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelait Grégoire le tomaturge. Tomaturge, non pas parce qu'il aimait les tomates, mais tomaturge est un mot grec qui veut dire faiseur de miracles. Un grand miracle fut le miracle du fleuve qui longeait Néo-Césarée. Ce fleuve, lorsqu'il y avait de gros orages, débordait et beaucoup de maisons de la ville étaient ensevelies sous les eaux. Grégoire eut pitié des habitants. Il se rendit au bord du fleuve, prit un bâton et un autre plus petit, en fit un bâton en forme de croix, le planta sur le bord du fleuve, en disant « Fleuve, au nom de Jésus-Christ, reste dans ton lit !» Et depuis ce jour, non seulement le fleuve ne déborda plus jamais, mais le bâton de Grégoire prit racine et devint un grand arbre. Un autre miracle très célèbre fit le miracle du lac. deux frères avaient perdu leur papa. Ils avaient reçu un héritage assez grand et un grand terrain. Et au milieu des deux terrains, il y avait un lac, et chacun des deux frères voulait le lac. Alors ils se disputaient à mort, toutes les deux familles se faisaient la guerre, et tout le monde vivait dans la haine. Grégoire les convoqua tous au bord du lac. Et il fit cette prière à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit « Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Venez à notre aide et arrangez cette affaire qui divise les gens et engendre la haine. » Aussitôt, le lac s'assécha, si bien qu'il n'y eut plus de problème pour diviser l'héritage. La sainteté de Grégoire était aussi grande que les miracles qu'il faisait. Sa piété était extraordinaire. Il priait sans bouger, la tête toujours couverte pour ne pas être distrait par les autres. Il faisait la génuflexion avec une grande modestie, une grande adoration. Il était toujours humble, simple. Il détestait le mensonge ou ce qu'on appelle l'artifice. On essaie de cacher ce qu'on pense. Il disait toujours la vérité, même si ça blessait, pour guérir, pour rendre meilleurs les autres. Il ne connaissait ni jalousie, ni orgueil, et il ne prononçait jamais aucune parole qui pouvait blesser la charité ou bien scandaliser. Il était toujours maître de lui-même, ne se mit jamais de toute sa vie une seule fois en colère. Saint Grégoire, aidez-nous à vous imiter. En 251, une grande persécution fut déclenchée par l'empereur Dèce. Elle dura un an, mais fut terrible. Saint Grégoire conseilla à tout le monde de fuir et d'aller se cacher dans le désert, ce qu'il fit aussi. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Jésus. « Quand vous persécutera, fuyez dans les montagnes. » Pourquoi fuir ? Par humilité, ne se croyant pas assez fort pour résister aux tortures sans apostasie. Grégoire prit avec lui le sorcier païen qu'il avait converti. Des soldats arrivèrent dans le désert, mais ne virent que deux arbres à la place des deux chrétiens. Ils revinrent vers leur chef en disant qu'il n'y avait pas de trace de Grégoire et son compagnon dans tout le désert. « C'est impossible. On les a vus il y a quelque temps là-bas. Retournez, vous, le capitaine, seul, et ne revenez pas sans eux. » Le capitaine partit, et cette fois, à la place des deux arbres, qui n'étaient plus là, il vit le prêtre païen converti et Saint Grégoire. Ce fait extraordinaire le convertit. Il demanda à être instruit et fut baptisé et resta leur compagnon. Dèce, furieux d'avoir été trahi, persécuta, mis en prison et tortura les chrétiens de Néo-Césarée, mais pas un seul ne trahit la foi. Ils préférèrent être torturés et même martyrisés plutôt que de dire qu'ils n'aimaient pas Jésus. Dèce mourut. Saint Grégoire revint à Néo-Césarée et institua des fêtes pour commémorer l'anniversaire des martyrs qui étaient morts durant cette persécution. Sachons, nous aussi, ne jamais faire de concessions malgré les moqueries et les misères qu'on pourra nous faire. Quelque temps plus tard, une fête païenne devait s'organiser dans la région de Néo-Césarée. Et le démon fit tant de publicité à travers ses suppôts qu'une foule énorme vint à Césarée et dans tous les environs. Et tous ces païens étaient si nombreux qu'il n'y avait plus de place pour personne dans la ville de Néo-Césarée et dans les environs. Alors les païens supplient leurs idoles de se faire de la place. Ils furent exaucés malheureusement, puisque la peste les décima à moitié. Voyant ainsi que leur idole n'était pas capable de tenir en vie, ils reçurent assez de lumière pour se convertir à la foi catholique. Et Saint Grégoire eut la joie d'en baptiser le plus grand nombre. Ensuite, une autre épreuve arriva, ce fut la guerre des Goths. Ces barbares, venus de l'Est, ravageaient toute la région de la Grèce, la Macédoine, la Turquie actuelle, le Pont, et ils dépouillaient les gens de toutes leurs richesses, de tous leurs animaux, de tout leur argent qu'ils avaient. Certains chrétiens se laissèrent tenter et achetèrent des animaux et des biens qui avaient été volés par les Goths. Saint Grégoire les reprit sévèrement et fit même une épître où il interdit d'acheter ce qui est volé. Acheter un voleur, c'est se faire voleur avec le voleur. Même si nous trouvons des biens, des choses, si nous trouvons de l'argent ou quelque objet, nous devons tout faire pour trouver le propriétaire. Et si vraiment on ne peut pas le trouver, on pourra le garder. Et à plus forte raison, on ne peut pas prendre un objet qui a été volé. Quelque temps avant sa mort, Saint Grégoire assista à deux conciles à Antioche en 270 pour condamner Paul de Samosate. C'était un évêque très orgueilleux qui faisait même chanter des hymnes en son honneur dans les églises. Et son hérésie consistait à faire croire que Jésus n'était qu'un homme et qu'il n'y avait qu'une personne en Dieu. Donc Jésus, le Saint-Esprit, n'était qu'un homme. Toute l'histoire de l'Église verra renouveler ses hérésies. On essaiera toujours de diminuer la divinité de Jésus-Christ, comme le font les modernistes dans le XXe et le XXIe siècle. Jésus est Dieu, il a droit à tous les honneurs de Dieu, et seule sa religion est divine. Paul fut condamné. Il fit semblant de se rétracter, si bien qu'on dut le condamner une deuxième fois. Enfin, vers 270, Grégoire avait un peu plus de 60 ans. Il sentait sa fin approcher, il dut s'aliter. Il défendit qu'on achetât un terrain pour l'enterrer, car il avait toujours vécu pauvre, détaché de la terre. Il voulait être enterré dans la fosse commune, comme tout le monde. C'est ainsi qu'il mourut, et on le représente toujours avec une idole à ses pieds, de laquelle il chasse un démon, car toute sa vie a été un apostolat pour chasser l'adoration des idoles dans cette région de l'Asie. Saint Grégoire le Thaumaturge, qui avait fait tant de miracles durant votre vie, et vous l'obteniez par une vie sainte et par la confiance dans la force de la prière. Faites que nous aussi nous obtenions des miracles pour nos âmes, pour les pécheurs, pour les âmes du purgatoire. Ces miracles ne se voient pas, mais sont bien plus grands. Et faites aussi que nous ne laissions pas attraper par l'adoration des idoles modernes que sont le sport, le culte pour la santé ou pour le corps et pour tous les plaisirs du monde. Faites que nous n'ayons qu'un seul plaisir que nous recherchons toujours et partout, contenter le bon Dieu et ainsi sauver notre âme et beaucoup d'âmes. Ainsi soit-il.